qui compte pour un acteur, c'est la personnalité. Sa présence.
Vous répondrez non, ça serait de la bêtise.
Si tu veux être dans un de mes films, il faut que ça coule dans tes lèvres. Ok?
Ça peut couler, hein.
On en parle. Tout.
Allez, action!
Action, pourquoi faire?
Il fallait bien qu'un jour, cette histoire, découverte autour de 20 ans, devienne du cinéma, de la vie, du son, un mouvement. 30 ans plus tard, le voici, ce film rêvé, historique et tellement moderne, magnifique et cruel. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à tous et à toutes.
Une comédie humaine où tout s'achète et tout se vend. Presse, politique, sentiments, réputation, illusions perdues. Le grand roman de Honoré de Balzac est enfin devenu un grand film. Bonjour Xavier Giannoli.
Bonjour.
Pour raconter cette histoire d'innocence détruite et d'idéal perdu, un sacré scénariste à vos côtés. Bonjour Jacques Fieschi.
Bonjour.
Et pour incarner ce jeune poète qui va se brûler les ailes à Paris, Lucien de Rubempré, c'est vous. Bonjour Benjamin Voisin.
Bonjour madame.
C'est la première fois qu'on m'appelle madame. Oh quelle horreur. Enfin, pour restituer le Paris de l'époque, deux grands techniciens avec nous ce matin. Bonjour Riton du Pierre Clément.
Bonjour.
Chef décorateur, vaste et belle mission. Et bienvenue Pierre-Jean Larocque.
Bonjour.
Costumier de cet immense casting, Illusion perdue de Xavier Giannoli est sorti mercredi. À vos côtés cette semaine notamment, First Coat, Pleasure ou Les Héroïques. On va dire que c'est parti.
France Inter. On aura tout vu. Christine Masson et Laurent Delmas.
Pour Lucien, tout avait commencé avec de l'encre, du papier et le goût de la beauté. Orphelin sans héritage, il avait été obligé d'apprendre un métier pour survivre. Sa sœur Ève ayant épousé un imprimeur d'Angoulême, il travaillait dans ce modeste atelier en rêvant à une autre vie. Aujourd'hui encore à Paris, tous ceux qui l'ont connu se demandent comment son histoire a été possible, dans quel mouvement du monde il a été emporté.
Ainsi démarrent ces illusions perdues, des images sur cette voix off, celle de Xavier Dolan, qui va parcourir le film. On raconte l'histoire en deux mots, même si beaucoup de gens l'ont vu, l'ont lu ce roman. Lucien, un jeune poète inconnu dans la France du 19e, a de grandes espérances. Il quitte l'imprimerie familiale Angoulême pour tenter sa chance à Paris. Au bras de sa protectrice et livré à lui-même dans la capitale, il va découvrir les coulisses d'un monde voué à la loi du profit. Xavier Giannoli, je le disais, vous découvrez Illusion perdue, le livre autour de 20 ans, à peu près à l'âge de Lucien de Rubempré. Mais vous êtes parisien, études de lettres, milieu intellectuel. À quoi rêvez-vous à ce moment-là?
Quand je lis Illusion perdue, je rêve au cinéma. J'ai fait des études de lettres à la Sorbonne parce que c'était entouré de cinéma. Et en lisant le roman, grâce aux commentaires émerveillants d'un professeur que j'avais, qui s'appelait Berthier.
Patrick Berthier, on lui rend hommage.
Voilà, et du coup, j'ai tout de suite senti vibrer quelque chose du cinéma à la lecture.
À quoi on peut, vous voyez du cinéma tout de suite dans Illusion perdue?
Alors c'est très concret, d'ailleurs c'était une des scènes du film les plus importantes pour moi, c'est la visite des coulisses des théâtres, où il y a d'un coup un fourmillement, une énergie visuelle, ce jeune Rubempré qui est emmené dans les boyaux des théâtres à l'époque, et de loin tout ça était étincelant et sublime, et il va découvrir tous les trafics, il va découvrir... Il y a cette phrase sublime dans le roman, Paris avait soulevé sa jupe pour montrer au jeune poète comme à un adepte digne d'elle sa monstrueuse nudité. Donc c'était cette idée du dévoilement, du rideau qui se lève sur une réalité, c'était du cinéma.
Chez Balzac, il y a aussi déjà du découpage et presque du montage.
Oui, c'est une littérature du regard. L'œil est sans arrêt excité quand on est en train de lire Balzac. C'est une littérature qui donne à voir, qui donne à sentir, mais même d'ailleurs sur les matières, la sensualité, c'est un spectacle total, c'est ça l'écriture d'Honoré de Balzac, c'est opératique.
Jacques Fieschi, il y a presque un double enjeu avec cette adaptation, donc adapter un roman classique, et surtout, à vos côtés, un cinéaste qui connaît très bien sa partition.
Oui, mais c'est tant mieux.
Oui.
Je veux travailler avec un metteur en scène qui sait ce qu'il veut, qui en plus, dans le cas de Xavier, qui écrit lui-même,
oui.
Ce qui n'est pas toujours le cas quand on travaille avec un metteur en scène, quel qu'il soit. Et donc, quelqu'un qui vous force à une exigence constante, quoi. Donc, c'est un défi supplémentaire de travailler avec quelqu'un qui, à la fois, a cette vision aussi forte et qui écrit lui-même. Et
on peut dire aussi que c'est inadaptable, pardon.
Que c'est inadaptable,
oui.
Quoi,
le du temps perdu.
Inadaptable, c'est un mouvement, comme le dit Xavier, c'est un brassage continu, mais dans la dramaturgie, c'est parfois difficile à isoler les éléments. Parce que comme il y a cette prise de parole constante de l'auteur, qui vient nous dire, faire un aphorisme, une idée générale, etc., par exemple, dans le texte de Balzac, il va peu à la ligne. Il n'y a pas de paragraphe, tout est souvent mêlé. Voilà. Et c'est la difficulté de l'adaptation dont je crois Xavier s'est très 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 bien sorti.
Mais
très.
Autre défi, mettre des enjeux contemporains dans cette histoire.
Oui, mais ça c'est Xavier qui va répondre parce que je pense que pour lui le cœur du désir de faire ce film, c'est beaucoup le fait. Bon, pardon de parler de certains éléments biographiques te concernant, mais le fait que son père Paul Jeannely est un homme de presse, donc tout ça c'est bien évidemment un moteur très puissant pour Xavier pour faire ce film, et c'est aussi pour ça que il a rendu ce portrait de la presse et de l'édition 19e si vivant. Si fort, si charnel, à la fois dans sa dérision et dans son panache.
Pas que son père, il y a aussi. Vous dites, j'ai laissé des choses de ma vie, drame, trahison, se déverser dans le film, Xavier Jeannery.
Je vous le confirme.
Mais encore.
Oh, la trahison amicale, je sais ce que c'est.
Mmh.
Vraiment, comme nous tous. Mais il est évident que le film se nourrit de des choses qui sont arrivées dans ma vie ces derniers temps, comme dans la vie de beaucoup de gens, et puis des éléments biographiques. J'ai du mal à moi-même évaluer quoi, mais je sais que j'avais un rapport organique et viscéral au roman, qui en plus m'a accompagné sur plus de 20 ans, donc finalement c'était comme une sorte de machine, parce qu'il est question d'une machine à
mais
gloire.
Est-ce qu'il vous a aidé, ce roman, pour affronter le monde que vous avez affronté après, qui est celui du cinéma? Allongez-vous, pardon.
Non, votre question est intéressante, puisque le cinéma, c'est un art impur, c'est l'art balzacien par excellence, puisqu'il est dépendant de l'argent, et qu'il est un art et une industrie, pardon, d'une telle banalité, mais c'est le cas, et qu'il faut négocier avec les forces de l'argent. Le problème, c'est que moi, je pense que la réussite d'un film, c'est toutes les concessions qu'on n'a pas faites. Donc, bien évidemment, quand on veut faire un film d'une telle ampleur, c'est une lutte, et c'est pour ça que ça a été si long. Voilà, mais est-ce qu'il m'a aidé? Un jour, Benjamin m'a fait une remarque très drôle. Il m'a dit, le problème de Rubempré, c'est qu'il n'a jamais lu de roman de Balzac. Et c'est un bon sens imparable.
C'est drôle,
oui, mais c'est vrai que, évidemment, Balzac vous aide à lire quelque chose du monde moderne, de ses compromissions, de ses trafics et de ce qui se joue en coulisses. On espère ça, d'ailleurs, aussi en lisant Balzac. Je parlais du dévoilement de cette jupe qui se soulève sur un monde. C'est comme un talisman aussi. On se dit, bah voilà, la vie moderne s'est faite de ça, de trahison, de tricherie, de rouages secrets.
Justement, on va vous écouter, jeune homme, Benjamin Voisin, dans cet extrait, avec Vincent Lacoste et Lousteau, et il vous donne une leçon de journalisme.
Mon métier, c'est d'enrichir les actionnaires du journal. Et au passage, de ratisser le plus possible.
De ratisser ?
Ratisser. Absolument.
On se fait payer une première fois par un directeur de théâtre pour écrire une bonne critique. Ensuite, on va voir son concurrent dans le théâtre d'à côté pour lui proposer de dire du mal du premier. Et comme ça, on fait monter les enchères en écrivant du bien ou du mal dans des journaux différents, sous des noms différents. Et ça tourne, et ça tourne. Et on ratisse, on ratisse. Ça crie, ça pleure, ça débarque ici avec des insultes ou des cadeaux. Et la polémique est lancée. Et la polémique, pour eux, c'est le plus important. C'est ce qui fait parler, donc vendre. Des places de théâtre, des livres, tout ce que tu veux.
Vous trouvez beaucoup de... rédacteur qui accepte.
Le journal paye à la ligne, mon grand. À la ligne et le jour même, t'as compris? Tu rends ton article le matin et t'es payé le soir même. Les éditeurs, eux, ils te payent à 6 mois, enfin, et encore quand ils te payent.
Moi, je suis arrivé de Dijon avec une petite comédie en trois actes que j'avais écrite dans ma campagne. Chez moi, tout le monde me disait que ma pièce était géniale, magnifique. Alors j'ai voulu la faire lire à des directeurs de théâtre à Paris, à des comédiens.
Qu'est-ce qui s'est passé ?
Personne n'a voulu la lire.
Pourquoi ?
Et tu les prends pour qui ? Si t'as pas le pouvoir de leur rendre service dans le journal où t'écris, tu les intéresses pas ? Tu ne fais peur à personne. Et si tu ne fais peur à personne, tu n'intéresses personne. Et pourtant, j'étais bon.
Très important cette réplique. C'est drôle, il y a deux jeunes acteurs face à face qui n'ont pas du tout le même background. Il y a un Lacoste qui est plus instinctif, qui n'a pas appris le cinéma, qui a été choisi dans son collège. Et il y a vous, Benjamin Voisin, qui avait travaillé le théâtre, le cinéma. Ça sent ça avec un autre acteur, cette différence ?
Oui, énormément, sauf avec Vincent Lacoste.
Ah oui.
C'est ça qui est fou, c'est-à-dire qu'il est le parfait exemple de ce que doit être le casting sauvage. Qui est le sérieux, le travail, la sueur, une fois que le dépucelage cinématographique s'est fait. La plupart restent dans leur case. Vincent, lui, tout de suite a compris ce truc qu'ont les acteurs, de vouloir chercher des rôles différents, de vouloir avoir des parcours qui s'entremêlent et de jamais correspondre à lui-même. Ça, c'est assez merveilleux, parce que c'est assez rare.
Xavier Jeannelis, je vais lui faire un immense compliment, mais moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. J'ai cru voir Delon à ses débuts. Vous voyez le côté félin un peu aussi.
J'y pensais sans arrêt quand je l'ai vu arriver dans une scène de grande réception où Jeanne Balibar il s'est
le
fait
départ.
Bon et il arrive pour moi c'est un des plus grands chocs cinématographiques de ma vie, le Guépard. Donc quand je l'ai vu arriver habillé comme ça, il avait une splendeur physique parce que le cinéma c'est ça aussi, c'est la splendeur physique et dans le film il y a aussi cet hommage à cette énergie extraordinaire des acteurs, leur beauté, leur présence, leur sensualité, une façon de bouger. Et Benjamin, dans tout ce qu'il fait, il y a du cinéma.
Pierre-Jacques Larocque. Pierre-Jean.
Oui.
Pierre-Jean. Pierre-Jean Larocque.
On l'écorche souvent, c'est pas grave.
C'est très beau, les costumes de Rubempré, qui évoluent énormément avec le film pour devenir de plus en plus flamboyants.
Oui, mais en fait, tout simplement, il essaye d'accéder à des statuts sociaux au fur et à mesure. Donc, il copie Lousteau.
Oui.
Après, une fois qu'il a copié Lousteau, il va copier Nathan.
Oui.
Donc, je suis parti d'un principe assez simple de gamme de couleurs. Le monde de l'édition de Lousteau, c'est plutôt dans les marrons. Il y a une gamme de marrons qui va très bien avec les décors. Mmh. Et les royalistes, c'est bleu et c'est or, qui va très bien avec les décors où il y a du blanc et or. Donc, quand on travaille sur les costumes, comme ça, on prend des schémas assez assez nets.
Oui.
Et après, on les brouille un petit peu pour pas que ça soit flagrant. Et après, il faut rester attentif à ce qu'est le comédien que l'on habille, pour ne pas perdre sa nature. Voilà.
C'est compliqué de parler des décors et des costumes à la radio. Et pourtant, on va passer cet extrait, cette description du Palais Royal, où on sent le mouvement, les sons, les costumes et les décors.
À l'heure de la fermeture de la bourse, une horde de jeunes gens se déversait au Palais Royal, en plein centre de Paris. C'était le carrefour des plaisirs de la capitale. Une sorte d'enclos protégé du regard de la rue, où la police n'entrait jamais et où on venait goûter à toutes les aventures. Autour des jardins, les boutiques de marchands de mode, les perruquiers ou les attractions foraines cohabitaient avec les restaurants, les salles de jeu et surtout les prostituées. Il y avait jusqu'à 1500 malheureuses qui
étaient là, etc., etc., pour ces décors. Mais les décors, il y a eu, parce que Xavier Jeannelis voulait absolument des décors naturels.
Oui, on est parti de décors naturels.
Oui.
On a pris l'option de tourner à Paris et donc donner des décors naturels. Néanmoins, il y a eu un rhabillage, évidemment, notamment donc au Palais Royal, où il a fallu habiller toutes les coursives, enfin une partie, avec des façades de boutiques qui sont décrites par la voix off, évidemment, et amener du volume dans les accessoires, dans la figuration, faire vivre effectivement la foison de ce lieu qui est décrit par Balzac et par Xavier dans le scénario.
Alors, ce descriptif, Xavier Jeannelis, je sais que vous aimez beaucoup Scorsese, m'a rappelé Scorsese, et notamment dans Taxi Driver avec ce travelling de nuit, sur la rue des prostituées. Et tout d'un coup, j'ai pensé à lui, avec tous ses descriptifs parisiens à une autre époque.
Bien vu. Bien vu.
Il vous inspire, Scorsese?
Vous trouverez peu de cinéastes qui ne l'inspirent pas, sûr, je pense, puisqu'il rassemble à lui tout seul à la fois la radicalité du cinéma européen, Hollywood, les stars, les inconnus, l'improvisation chez Cazavetes. Enfin, c'est une sorte de cinéaste total quand on parlait de spectacle total.
Et en même temps, cette époque, c'est des truands, tous ces gens, ces journalistes, ces directeurs de théâtre.
La note, c'était le...
Les journalistes, des truands
Non, mais c'était le film de...
C'est des mafieux. Des mafieux.
C'était faire un film sur un milieu, le film de gangster.
Oui,
voilà, ça c'était important, avec ses codes, ces dangers, sauf qu'ils ont des plumes et pas des flingues. Mais il y avait ça, la description du jeune innocent, si on peut dire, qui doit d'un coup se retrouver dans un milieu et apprendre les codes. Et puis surtout, quelque chose de très important, qui est l'énergie visuelle. Oui. Moi, j'aime beaucoup des cinéastes comme Ophuls aussi.
La voix off que vous reprenez est scorsésienne, ophulsienne. Il y a beaucoup de cinéastes qui l'ont pratiqué, mais là, c'était très important, cette voix off.
Oui, et puis c'était un très gros travail avec Jacques et avec Xavier Dolan, puisque Xavier Dolan fait cette voix. C'était d'ailleurs son premier métier de faire des voix. Xavier, on a énormément travaillé sur cette voix off pour trouver le bon équilibre et pour qu'elle soit organiquement liée au récit. Et on voulait que ce soit un personnage, et le personnage qui joue dans le film raconte l'histoire, ce personnage de jeune écrivain qui s'appelle Nathan. Et ça a été un bonheur de travailler avec Dolan pour nous tous, qui est un metteur en scène que j'admire beaucoup. Et il avait une implication, un perfectionnisme, une générosité qui a électrisé beaucoup de choses du film.
Alors on va écouter cette scène justement avec Depardieu qui joue l'éditeur, avec vous Benjamin Voisin, et justement avec Xavier Dolan.
C'est qui celui-là là ? Vous écrivez où ?
Lucien de Rubempré, monsieur.
Et vous l'avez lu, vous, son bouquin ?
Oui, je l'ai lu attentivement, oui.
Vous l'avez lu, vous aussi.
Oui, mais laissez-le parler, là. Allez-y, exprimez-vous.
Bien, on dit qu'un auteur doit avoir des choses à dire. Moi, je pense qu'il doit avoir aussi des choses à taire. Or, dans le livre de monsieur, comme l'a si bien dit Lousteau, tout est dit, tout s'exhibe. Où est le mystère ?
Le mystère, c'est celui de votre présence ici, monsieur Chardon. Chardon, c'est bien ça.
Pour le dire simplement, je trouve que le livre de monsieur est curieux de nullité.
J'aime bien ça.
Très bien, curieux de nullité.
Ma modestie naturelle me permet de rire de ce genre de traits.
C'est une drôle de vertu, la modestie. Dès qu'on croit qu'on en a, on n'en a déjà plus.
Bien, on se revoit mardi à 10h. Donc, vous appelez Chardon ou Rubempré ?
Rubempré, monsieur.
Lucien est un jeune écrivain qui est venu vous soumettre un manuscrit.
Ah non, ça suffit, les écrivaillons. Ça grouille de partout, on n'en peut plus.
C'est un recueil de poésie très original.
De la poésie ? Mais qu'est-ce que tu veux que j'en fasse, malheureux ? Ça se vend pas, la poésie.
Parce que j'ai eu le mieux depuis longtemps, tu verras.
Vous en connaissez beaucoup, des gens qui achètent de la poésie ? T'achètes de la poésie, toi, Lousteau ? Non, surtout toi.
Lucien travaille aussi à un roman qui est très prometteur.
Un roman ? Il y en a partout. Pourquoi faire ?
Bien parce que la littérature est toute ma vie, monsieur.
Mais les livres d'inconnus, ça n'intéresse personne. Ça se vend pas.
Il a raison. Je comprends pas.
Non, moi, je ne publie que des gens déjà célèbres. Sinon, il y a trop de risques.
Mais dites-moi, comment se fait connaître un jeune auteur ?
Eh bien, en connaissant des gens célèbres. Trouvez-vous une maîtresse célèbre, un ennemi célèbre ?
Il explique bien,
Oui, un ennemi célèbre qui vous insulte dans son journal. Tiens, Nathan, par exemple. Ce serait un très bon ennemi pour vous.
On se croirait en 2021, c'est absolument fou. Benjamin Voisin, vous aviez déjà rencontré, joué avec Depardieu dans Bonne Pomme. Vous avez voulu l'impressionner, je crois.
J'ai voulu l'impressionner.
À l'époque, vous avez raconté que vous aviez essayé de plusieurs prises de jouer différemment pour le surprendre.
J'avais, en tout cas, pour essayer de le capter plus que l'impressionner, pour partager un moment. C'est dur de garder Gérard en face de soi pour un acteur. Il faut être solidement installé. Si il ne se passe rien en face de lui, il va aller faire autre chose. Donc du coup, il faut vraiment le garder avec nous.
Et comment on le garde alors?
On
le regarde.
Non, on est en plein sens de la scène. On joue vraiment, et puis on essaye d'ouvrir un peu le cœur. pour voir que la chose n'est pas faite à moitié. En tout cas, elle est faite avec le plus d'envie et d'humanité possible. Et là, je crois que c'est là que Gérard se sent un peu intéressé. Je voyais que c'était pareil chez Vincent Lacoste, chez Xavier Dolan. Il a fait ça pour nous, ce regard qui était doux. Donc du coup, c'était une belle re-rencontre.
Depardieu n'est pas toujours généreux sur les tournages. Dans les films, Xavier Giannoli, là, il se donne beaucoup, là. Il se donne.
Il était entouré de très jeunes acteurs, Lacoste, Dolan, Benjamin, Salomé. Et il était entouré d'une génération qui attend de lui ce qu'il peut faire de plus beau et de plus grand. Et je crois qu'il l'a senti. Il l'a compris, et puis c'est un animal instinctif, donc il connaissait son texte, il s'amusait, il voulait essayer, et tout est une aventure avec Depardieu. La moindre prise, il va faire un geste, un regard, quelque chose, on est stupéfait pour un metteur en scène, c'est tout ce qu'on espère de... Vous savez, il y a une phrase, il a beaucoup tourné avec Pialat, et Maurice Pialat citait souvent Auguste Renoir en disant « Je veux peindre le bouquet du côté où il est défait ». Et Depardieu, il y a cette explosion de vie et de couleurs, de grâce supérieure qui n'est pas organisée et qui pourtant a des traces de beauté quand il a décidé qu'il était là et qu'il se donnait du mal. Et on a eu la chance, je crois, Benjamin, que tu as ressenti ça aussi, qu'il était heureux dans les scènes d'affrontement avec des très jeunes acteurs.
Il a besoin de redécouvrir sa curiosité et sa vocation d'acteur.
Oui.
Et c'est ça qui lui arrive, je crois, avec toi et quelques autres.
Tous ces bons mots, ces belles phrases, Jacques Pieski, est-ce que elles viennent toutes de Balzac? Par exemple, il y en a une que j'adore, c'est la première impression est souvent la bonne, surtout quand elle est mauvaise.
Ça, je pense que c'est de...
C'est Janson.
C'est Henri Janson. Il y a beaucoup d'emprunts. Il n'y a pas que du Balzac. Enfin,
non.
Loin de là.
Oui.
Mais enfin, il y a une tentative d'équivalence, cette langue. Parce que la langue de Balzac, bien sûr, elle est superbe. Mais elle est parfois vieillie. Donc, il s'agit d'être plus accessible, plus net, plus clair, parfois. Et puis, après, à la fois, on invente et on emprunte, comme dit Xavier, c'est d'espérer commencer de vivre, c'est de Pierre Corneille.
Il y a même du Mediapart.
Oui, puisque comme il est beaucoup question de ce que devient la presse, il est à un moment, il y a un nouveau journal qui s'appelle Le Réveil, c'est un journal royaliste, donc ça m'amusait que le slogan du journal royaliste soit celui de Mediapart. Et ils ont été très... On leur a demandé leur avis, ça les a beaucoup amusés, qui est « Seuls nos lecteurs peuvent nous acheter ».
Voilà. Il y a une grande, belle, il y a plusieurs belles idées dans ce propos ils ont perdu, mais surtout celle-là, à quel moment et jusqu'à quel point on est capable de se trahir soi-même pour trouver sa place dans la vie? Ça, c'est un vrai débat philosophique.
Oui, enfin, c'est un enjeu de vie.
Oui.
La dernière image, car c'est une image d'un grand homme de province à Paris, qui est le livre central d'Illusions perdues que nous avons adapté, c'est une prostituée qui s'appelle Bérénice. Et la prostitution de soi-même, cette idée d'être pris dans un mouvement du monde qui vous amène à vendre ce que vous êtes. Nous, on a écrit et on a pensé et senti ce film comme un cri du cœur, un désir de s'accrocher au goût de la beauté, à une forme d'exigence dans un monde où tout peut vous amener, pour des bonnes ou des mauvaises raisons, à vous vendre et à vous trahir vous-même. Et le gâchis de soi-même, vous parliez de la réplique de Lousteau qui pour moi, qui est dans le roman et qui est une réplique essentielle, et pourtant j'étais bon. Oui. Moi, elle m'a toujours fait peur, même quand je l'ai lu à 20 ans et aujourd'hui, cette idée d'être passé à côté de soi-même, d'être passé à côté de ce qu'on peut faire de plus beau et de mieux.
Est-ce que c'est quelque chose que vous vous êtes dit après qu'un de vos films n'ait pas été bien reçu? Est-ce que, non mais ça paraît très, c'est un égo, un gros égo, mais est-ce que vous vous êtes dit, et pourtant j'étais bon, et pourtant le film était bien?
Moi je suis, il y a peu de gens dont je suis aussi proche que Jacques, donc il me voit depuis des années. Moi je suis un peu tordu par le doute et l'angoisse, et je ne sais plus qui m'avait dit un jour en m'entendant parler de... peut-être avec une complaisance autodestructrice de mon travail, qui m'avait dit « Mais il faut que tu arrêtes de regarder tes films avec les yeux de tes ennemis. »
Mais oui.
Et ça m'avait beaucoup... oui, c'est le cas.
C'est un bon remède, ça, de vous dire
Je
ça.
N'y arrive absolument pas.
Non.
Et,
voilà.
Et non, et je suis dans ce doute, dans ce tumulte permanent de... Non, j'ai du mal à en vouloir à ceux qui disent du mal.
Ouais. À un moment, il y a une conversation entre vous, Lucien de Rubempré et Lousteau sur la critique. Il dit, à la fin, vous dites, je sais même plus si j'aime ou si j'aime pas le film. Ça, c'est quelque chose que vous avez, c'est fort quand même, ça vient de vous, Xavier Jeannoli.
Non. Cette réplique, non. Elle est pour moi centrale dans Illusion perdue. Tout se joue là.
Ouais.
C'est à la fin d'une leçon de critique où Vincent Lacoste et Benjamin...
Ouais.
Lacoste donne une cynique leçon au jeune journaliste Benjamin Voisin, Rubempré, en lui montrant comment la critique peut être un pur jeu de l'esprit, déconnecté du sens et de la valeur réelle de l'œuvre, et comment on peut dire une chose et son contraire avec la même conviction et surtout la même drôlerie. On pleurait de rire en faisant cette scène. Et le problème, c'est qu'à la fin de la scène, Rubempré finit par dire « Je ne sais même plus si je trouve le livre bon ou mauvais ». En fait, dans un monde livré à la loi du profit, où les commentaires sont à vendre, où plus rien n'est sincère, où la seule chose qui compte, c'est est-ce qu'on va faire le buzz, comme on dirait aujourd'hui, peut-être que la valeur intrinsèque des choses se perd.
Si le livre est émouvant, tu dis qu'il est complaisant. S'il a un style classique, il est académique. S'il est drôle, il est superficiel. S'il est intelligent, il est prétentieux. S'il est inspiré, il est racoleur. Et puis tu déroules.
Si le récit est bien construit, il est prévisible. Si l'auteur a du style, c'est pour cacher qu'il n'a rien à dire.
Voilà, la démonstration est faite. Illusion perdue, c'est aussi, Jacques Pieschi, une amitié trahie, quoi. Je veux dire, si nos amis sont intéressés par leur vocation, leur carrière, il n'est plus question d'amitié.
Ben, c'est toujours parfois
mise à l'épreuve.
Dangereux d'avoir des amitiés qui soient uniquement dans le domaine qu'on arpente soi-même, c'est sûr. On peut y avoir des déceptions, des trahisons, et puis des rédemptions, des réconciliations. Voilà, il y a tout cela. Mais ce que je voulais dire par rapport à cette compromission-là perpétuelle que doit affronter le jeune Rubempré, que joue magnifiquement notre ami, si vous avez permis de lui dire, c'est le fait que tout ça, tout ce cynisme, même presque toute cette pourriture, ça a une séduction. C'est une vitrine séduisante.
Ouais.
C'est pas simplement de la répression ou de la noirceur. Il y a un panache et il y a, dans ce cynisme à la française, il y a une séduction de style. Il y a un style, quoi. Voilà. Et c'est pour ça aussi que je crois que les scènes de Balzac et dans l'adaptation de Xavier, que tout cela est vivant. Même ce qui est répugnant est séduisant, d'une certaine manière. Voilà.
Paris est séduisant. D'ailleurs, à travers les décors et les costumes, il fallait le rendre séduisant et en mouvement.
Absolument, de par les couleurs, par exemple, des extérieurs de toutes les vitrines de boutiques très colorées, et puis de par également la vie parisienne, ça, tous les petits métiers qui ont disparu. On avait fait un vrai travail iconographique très en amont du tournage pour Xavier, avec répertorier tous les petits métiers, les accessoires qui allaient pour nourrir un peu justement toute la foule qu'on pouvait avoir dans les rues de Paris ou même dans les boutiques, même dans la librairie de Doria, ça fourmille partout, tout le temps. Il faut qu'il y ait de la générosité, entre guillemets.
Mais c'est une beauté inversement proportionnelle à la noirceur de ce qui se raconte, des sentiments qui s'échangent ou qui ne s'échangent pas, des inimitiés qui se créent, etc. C'est inversement proportionnel.
Oui, tout à fait. Mais c'est sûr que en fait, dans cette farandole de couleurs, il y a effectivement une noirceur qui voyage, qui ferait son chemin, on va dire.
C'était quoi les conseils pour les costumes, Pierre-Jean Larocque, les conseils de Giannoli?
Les conseils de Xavier?
Ouais.
Déjà, le premier conseil, c'est quand vous lisez le scénario. Vous lisez le scénario, il y a beaucoup de choses qui sont dans le scénario. Quand on lit le scénario, il y a plein d'images qui vous viennent. Et puis, Xavier, les conseils, il les distille, il les donne pas. Vous n'avez pas des grandes réunions qui durent des heures. Il parle à des moments où vous attendez pas où il va vous parler, mais il vous parle. Et donc, il faut picorer comme ça les infos par instant. Ça vient comme ça. tout d'un coup, il déboule dans le bureau et puis il aime ou il aime pas, voilà. Mais il dirige vraiment. Il nous dirige aussi comme des acteurs. Moi, j'estime que je suis dirigé par lui et j'aurais eu un autre scénario. Pardon, le même scénario avec un autre metteur en scène, j'aurais pas fait la même chose.
De même, voilà. Dialogue avec l'acteur, avec Benjamin Voisin.
Ah bah oui, mais oui. Tout, on dialogue avec les acteurs. Enfin, les acteurs, c'est, nous on a cet instant privilégié, c'est quand on est dans le salon d'essayage et que, un petit peu, on est comme des gamins et on joue. On joue, on dit, bah, tiens, tu vas mettre ça, puis ça va faire ça. Et c'est des moments très... que j'aime beaucoup dans mon métier.
Mais vous diriez qu'un film, c'est l'équivalent de la collection d'un couturier ?
Ah, pas du tout. Notre travail, c'est pas du tout. Ça n'a rien à voir avec la couture. Alors, on lutte un peu contre ça, les costumiers, parce que on nous appelle créateurs et costumiers, et en fait, on fait ni l'un ni l'autre. Parce que nous, ce qu'on fait, c'est des vêtements. À l'époque, ces gens, ils pensaient pas se déguiser avec des costumes. Ils portaient des vrais vêtements d'époque. Et ça, il faut toujours l'avoir en tête. Sinon, vous figez. Si vous vous dites, à l'époque, c'était comme ci, comme ça, pas du tout. Notre époque, nous, on la voit pas de la même façon. Et on crée pas, parce que le créateur, c'est le metteur en scène, pour moi. Moi, je suis là pour lui faire des personnages qu'il a envie de filmer et que surtout, les acteurs se sentent bien.
Justement, Benjamin Voisin, je sais que vous aimez bien porter les costumes avant.
Bah justement, pendant ces séances avec Pierre-Jean, je lui avais demandé si c'était possible de garder un petit peu des affaires pour pouvoir m'habituer un peu.
Oui.
Et puis, ce rôle, il y avait à peu près 180 séquences, quelque chose comme ça, où je trouve qu'il fallait faire évoluer le personnage du point A au point B. Alors, il y a évidemment le jeu d'acteur, il y a évidemment la mise en scène, mais le travail de Pierre-Jean a été pour moi d'une grande aide. Rapidement, je trouve que mon corps s'adaptait à ce que Pierre-Jean m'avait taillé. Et donc, au début, pour moi, c'est plus facile d'être, disons, avec un corps lâche et beaucoup plus soutenu quand Lucien de Rubempré devient royaliste. Et donc ça, c'est intéressant pour un acteur d'avoir
bien sûr.
L'aide de du costumier.
Oui. On peut dire que le personnage le plus pur dans l'histoire, c'est Coralie, c'est la jeune maîtresse de... Non.
Oui, c'est une apparition, cette jeune actrice. Elle avait déjà fait Salomé de Valls, elle avait déjà fait des apparitions dans des films. Mais il y a des scènes de lit, après l'amour, comme on dit.
Eh ben, on y va, on y va.
Tu vas avoir 13 ou 14 ans.
Et c'est ta propre mère qui t'a donné...
Oh. Pas donné, vendu. Et quand j'ai découvert combien, ben, je me suis dit que je valais pas grand-chose. C'était une petite troupe, ils se sont occupés de moi. C'est avec eux que j'ai appris à danser.
Et après ?
Ben après, les messieurs ont commencé à me tourner autour. Et j'ai vu des choses moches avec les autres filles de la troupe. Il y a eu beaucoup d'histoires.
Et après ?
Et puis à mes 15 ans, on m'a engagée dans une petite troupe pour faire des spectacles de mime dans la rue. C'était la mode à Paris. Puis voilà. C'est comme ça que j'ai rencontré Florine.
Merci.
T'es beaucoup trop beau pour moi. Tu vas me faire du mal. Tu vas rencontrer une marquise riche comme il faut et hop, plus de Coralie.
Je savais pas qu'on pouvait faire l'amour comme ça.
Moi, quand je me donne tout entier. Sinon, à quoi bon ? Je sais que t'es pas comme eux. Tu vas faire de grandes choses. Je suis pas intelligente, mais je le sens. Je sens ces choses-là.
Elle est très belle, cette scène.
Moi, j'étais bouleversé sur le tournage. Ils sont tous les deux nus sur le lit. Elle remplit avec des fonds de verre de champagne un verre. Oui. Et puis, c'est la parole qui sort comme ça. Cette impression de capter un moment de vie. Et dans l'équilibre du film, leur naturel, leur beauté, leur jeunesse apportent, alors qu'on a des scènes de salon, de costumes où quelque chose est tenu, et là on a une sensation, j'espère, de vérité humaine et de sensualité simple. Et dans le reste, on a une impression de comédie sociale. Et cet équilibre-là, c'était tout. Et puis c'était tout l'art de Jacques aussi, à ce qu'on arrive à trouver tous ces équilibres entre des scènes de représentation où il y a une espèce de puissance, de code qui s'impose, et puis des moments de vérité humaine, tout simple, de discussion.
Tout commence avec le casting, de toute façon. Hein. Alors, on peut citer les autres. Hein. Cécile de France, on a parlé de Vincent Lacoste et Xavier Dolan, Jeanne Balibar, André Marcon, Louis Daudelinxin, Jean-François Stévenin.
Oh mon Dieu. Jean-François, je te laisse en parler, Benjamin, puisqu'à chaque fois, je finis par être trop ému.
Deux mots sur son rôle, allez-y.
Saint-Gali qui s'occupe de chorégraphier le public en fonction de ce qu'il prend comme argent.
C'est ça.
Et d'organiser la claque.
En fait, c'est ce qu'on appelle un claqueur. Voilà, ça veut dire qu'à l'époque, dans les théâtres, on pouvait organiser l'échec ou le succès en faisant appel à un service qui était, c'est dans le roman, hein, tout ça, hein, qui est un personnage. On le payait et on faisait applaudir la pièce.
Mais malheureusement, ça a disparu.
C'était Jacques Fiski. Voilà.
Mais le théâtre concurrent pouvait aussi payer la même personne pour faire siffler la pièce. Sûr. Donc, en fait, tout le monde avait peur tout le temps, qui a payé la claque, combien on a payé la claque, et Stévenin est celui qui impose sa loi sur le boulevard du crime, comme on disait à l'époque.
Deux petits mots pour conclure sur Stévenin alors, Benjamin Voisin.
Et ben, moi j'étais tellement heureux tous les jours dès que je voyais à la feuille de service qu'on reçoit la veille que Jean-François allait tourner demain, parce que je savais que c'était donc une journée de tournage passée avec lui, mais aussi une soirée et puis une matinée le lendemain. On buvait beaucoup ensemble, et puis... Et puis surtout, toutes ces histoires étaient folles. Ouais. Et il a été d'une telle douceur avec moi. Les gens, les autres acteurs passaient, voilà, et jouaient avec moi les séquences. Et lui restait après les siennes pour regarder un peu comment je me débrouillais, m'attendais un petit peu. Et pour continuer nos histoires, finalement. Donc c'était beau.
Il a assisté à la naissance d'un grand acteur, donc Benjamin Voisin. Dans Illusion perdue, vous restez avec nous, Xavier Giannoli, Riton Dupierre Clément, Pierre-Jean Larocque et Jacques Fieschi. On se retrouve après la Villiers.
J'entends le cœur du monde battre de plus en plus fort, celui des multitudes et de la solitude. Le croise de plus en plus la haine, la peur, la mort. C'est presque une attitude, ça devient l'habitude. Quand nos amours n'auront plus cours sous ce soleil énorme, alors viendra le compte à rebours sur ses désirs brûlés, sur ses désirs brûlés. La tête du dictateur, la tête du fusilleur, toujours en embuscade dans les rues de Bagdad. Si la démocratie peut tomber en 10 heures, si les banques surnagent attendant le naufrage, alors nos amours n'auront plus cours sous ce soleil énorme. Tu ne pourras plus faire demi-tour, enchaîner, 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 enchaîner.
Illusion perdue est sortie mercredi, mais il y a d'autres films qui sortent.
Allez le voir, courez le voir.
Courez le voir. Oui. Allez voir aussi First Code, l'américaine Kelly Reichardt. Elle a pour elle toute la critique, unanime, sans une seule fausse note, c'est-à-dire que son film marche, oui, pour l'instant, plutôt bien dans ce contexte-là. Mais le film est fragile. Laurent, dans l'Ouest américain, l'amitié au début du 19e dans l'Oregon, entre un cuisinier et un immigrant d'origine chinoise. Ils vont monter un commerce de beignets grâce à un ingrédient, le lait, qu'ils tirent clandestinement de la première vache introduite en Amérique, cette First Co, propriété d'un notable. Deux perdants magnifiques, filmés dans un format cinéma presque carré, près du sol. tout en douceur, une conquête de l'Ouest comme on en voit rarement.
Oui, alors c'est étonnant parce que c'est quand même le deuxième western de cette femme cinéaste américaine, deuxième western. Et alors le premier s'appelait Le Dernier Convoi et le nouveau s'appelle La Première Vache. On n'épiloguera pas plus sur cette façon, mais elle est malicieuse, Kelly Reichardt. Moi, je la vois très beaucoup plus malicieuse qu'on ne peut le penser. Et cette Première Vache est pleine, effectivement, cette histoire est pleine de malice, avec au centre, toujours chez elle, une attention incroyable à la nature. Là, elle revient justement aux fondamentaux du western, qu'elle traite avec énormément d'intelligence. C'est-à-dire, effectivement, on n'est pas chez Eastwood, on n'est pas chez Sturges, on n'est pas chez John Ford, mais on est dans une revisitation très intelligente, très sensible, très sensée, de, vous le disiez, de ce qui est, après tout, comme n'importe quel western, l'histoire des États-Unis, puisque ce pays a une histoire cinématographique à travers le western, on le sait bien. Et tout ça donne effectivement des films d'une incroyable douceur. Moi, j'y retrouve vraiment des accents, des images, des sensibilités du cinéma de Murnau. Et ça fait énormément de bien.
First Co, l'industrie du porno en Amérique, vue par une réalisatrice suédoise, s'appelle Pleasure, et elle s'appelle Ninja Kiberg, à travers le portrait de Bella, une Suédoise de 20 ans, déterminée à faire carrière et devenir une star du X, quitte à brûler les étapes et perdre en route son intégrité. Ninja Kiberg a beaucoup enquêté, cela se sent dans la description de ses tournages X. Elle pose sa caméra là où on la pose rarement, un autre angle pour regarder cette industrie sans a priori, une industrie respectueuse de l'hygiène, du consentement, sans faire bien sûr l'impasse sur les rapports de force, les pressions et la violence parfois, une approche frontale du sexe et de la nudité, et surtout le portrait d'une jeune fille qui a tenté l'extrême sans jamais rassasier, combler son vide existentiel. C'est assez réussi ce film, ça s'appelle donc Pleasure. Le Peuple Loup, Laurent, de Tom Moore et Ross Stewart, c'est de l'animation en Irlande, la rencontre d'une jeune fille de 11 ans avec une autre fille, fille le jour et louve la nuit.
Oui, le slogan de l'affiche, c'est sois fier, sois sauvage, sois libre. En fait, après les deux premiers films, Brendan et Le Chant de la Mer, c'est le dernier volet d'une trilogie celte, on va dire, très très axée sur le folklore irlandais, à tout point de vue, y compris dans le graphisme, dans le dessin, qui est très beau, une sorte de, à la fois de ligne claire, mais très baroque, très magique, avec un soin vraiment très fort apporté aux couleurs, aux nuances, au dessin des personnages. C'est, on peut le dire, à partir de 8 ans, à peu près, mais c'est visible même par moi, oui, je l'ai vu, donc c'est dire si c'est bien après 8 ans. Donc ça marche, ce Peuple Loup. On est heureux, après, par exemple, de la traversée de Florence Miaille, de voir combien l'animation sur les écrans en ce moment, ben ça vaut le coup. Il faut emmener ses enfants voir ce genre de film-là. Ça ne peut que leur laver le cerveau et les yeux d'autres images qu'ils voient beaucoup trop par ailleurs.
Les héroïques de Maxime Roy. Michel, ancien junkie, est un éternel gamin qui ne rêve que de moto et traîne avec son grand-fils Léo et ses copains. À 50 ans, il doit gérer le bébé qu'il vient d'avoir avec son ex et se bat pour ne pas répéter les mêmes erreurs. Le film est né d'une rencontre entre ce réalisateur et François Creton, qui joue son propre rôle, d'où cet accent de vérité, portrait d'un écorché vif, donc ancien toxico qui lutte contre ses addictions. Le film démarre sur un monologue saisissant. Michel, filmé de profil, raconte son parcours à cette réunion d'alcooliques anonymes. Le film ensuite déroule ses galères, portrait de la pauvreté au plus près de la vérité, transcendé par cet homme, François Creton, de tous les plans et qui joue ici sa vie, ce n'est pas rien, dans un film qui lui rend sa dignité. Ça s'appelle Les Héroïques. Une séance de rattrapage aussi avec ce film sorti la semaine dernière qui s'appelle Julie en 12 chapitres, du cinéaste norvégien Joachim Trier, un parcours initiatique et amoureux, celui d'une trentenaire qui n'arrive pas à se fixer dans la vie. Filmage aérien, lyrique, solaire, gracieux, autour d'une héroïne touchante que la vie va cabosser, c'est doux, amer, drôle et bouleversant. Voilà, et notons aussi la ressortie de Nouvelle Donne du même Joachim Trier.
Absolument, et la ressortie aussi, ça, c'est, cette semaine est assez
d'exception.
Oui. Falbala de Jacques Becker, hein, s'il vous plaît, sans regard avec l'actuelle exposition à la Cinémathèque. L'île de Kim Ki-duk, formidable film. Soy Kuba de Kalatozov, bon là aussi. Et puis Un ange à ma table. Table de Jane Campion. Bref, là, en ressorti aussi, il y a du bon et il y a du lourd. Un petit mot sur Mon Premier Festival. Oui. On l'a pas dit, du 20 au 29 octobre. C'est à partir de 2 ans. C'est dans plus de 12 salles à Paris. C'est au total 300 projections et animations parrainées par Ariane Ascaride. Ça permet effectivement aux jeunes publics, avec notamment aussi des ciné-concerts, une rétro Rémi Chaillet, le cinéma iranien, là aussi, d'aller voir de beaux films dans des belles salles.
Et maintenant, les cadeaux.
Et maintenant, les cadeaux, absolument. J'arrive, me voilà. Pour vous, Xavier Giannoli.
Attention.
L'œuf du serpent. Oh, Ingmar Bergman.
Vous connaissez
Bergman, oui, non, oui. J'en ai entendu parler.
Et voilà, c'est le moment détente. Un coffret Blu-ray DVD chez Rimini, beaucoup de bonus, un livret en plus. Vous savez, c'est Berlin entre les deux guerres. C'est comme votre Balzac, ça a quelques résonances actuelles, hélas.
Avec des expérimentations horribles, notamment une femme et son enfant qui
extraordinaire.
Évidemment, magnifique film de Bergman. Pour vous, Jacques Fieschi, on a pensé à une autre adaptation littéraire, et pas n'importe laquelle, Le Jardin des Finzi Contini de Vittorio De Sica, d'après l'immense écrivain italien Bassani, Giorgio Bassani, là aussi Blu-ray, DVD restauré 4K, et c'est pour la première fois en Blu-ray, c'est chez M6 Vidéo, et puis franchement un film qui a Dominique Sanda comme actrice principale ne peut pas être foncièrement mauvais, comme disait l'autre. Pour vous, Benjamin Voisin, il se trouve que c'est un de vos collègues acteurs qui est devenu aussi réalisateur. Il s'appelle Dennis Hopper, vous voyez, Out of the Blue, c'est son premier film, merveilleux. Il y a Giannoli qui est jaloux, mais c'est pas pour vous.
Mais c'est un chef-d'œuvre. Ouais.
C'est un chef-d'œuvre absolu. Il est chez en Blu-ray DVD chez Potemkin, nombreux bonus. Là aussi, c'est sur une figure paternelle incroyable. Et vraiment, si vous n'avez pas encore vu ce film, Benjamin Voisin, ben on est très heureux.
Et
de
Linda Mantz,
découvrir
cette actrice qui a fait très peu de films, oui, qui est une apparition, un météore dans le cinéma, oui, mais vraiment extraordinaire que ça y existe en DVD.
Alors pour Riton de Pierre Clément, Train d'enfer, ça c'est un peu, on passe à une petite joke, c'est un Gilles Grangier de la grande époque, 1965 avec Jean Marais, et c'est pour vous, parce que ça se passe sur la Côte d'Azur dans les années 65, donc forcément, oui, vous allez voir, c'est tout à fait vintage, comme il faut. Non, c'est ceci dit dans une très très belle, ouais, édition, qui s'appelle Coin de Mire, et on est toujours très très heureux dans ces coffrets Blu-ray DVD de mettre en avant cet éditeur. Et puis, enfin pour vous, Pierre-Jean Larocque, et ben c'est The Fisher King, de Terry Gilliam. Là aussi, il y a une certaine attention au costume dans ce qui est une sorte de quête du Graal moderne dans un New York absolument contemporain. C'est chez Wildside, et là aussi, Blu-ray, DVD, livret et bonus nombreux. Voilà.
Merci à tous d'avoir participé à cet immense film, à ce très grand film qui s'appelle Illusion perdue, qui est sorti mercredi. Merci Claire Destacan, Laurent Thomas, Christophe Magère et Thierry Dupin. Au revoir.
Merci, merci à vous.
Merci beaucoup, au revoir. Merci.